le monde il est beau, tout le monde y réagit.
Ce qui se détache particulièrement de ce dernier article du billet précédent est le caractère particulièrement bien organisé de toute cette structure qui œuvre pour le maintien du système dominant, dirigé par des dominants justement. On pourrait s'étendre sur la légitimité d'un état de suspicion aboutissant au terme de complot, tant le fonctionnement paraît répondre à l'action concertée, préméditée. Ce serait là commettre la faute de simplifier et de ne s'intéresser qu'à des acteurs, oubliant par là de s'intéresser aux structures permanentes que notre système d'organisation sociale offre à la manipulation, quels qu'en soient les acteurs. Cette omission peut se révéler fatale quand il s'agit d'observer ces mécanismes afin de déterminer quels peuvent être les outils capables de les contrer jusqu'à se trouver à même de pouvoir les désactiver. Mais, pour les désactiver, il faut justement d'abord se tourner vers l'observation de ce qui leur permet d'exister et de perdurer. Et cette question-là devrait particulièrement intéresser les milieux militants concernés, puisqu'elle permettrait peut-être la mise en place d'une capacité d'organisation capable de mettre ces mécanismes en échec. Et s'il faut considérer en cette matière le risque renouvelé de la récupération, il ne faut pas non plus oublier le fait que le passéisme en constitue un autre, sans doute pas moins nocif, puisque d'autant plus lénifiant. Pour ce qui est du prochain article intitulé « Politiser les colères du quotidien », écrit par Clément Petitjean dans Le Monde diplomatique de mars 2018, il ouvre ce dernier volet de cette thématique du militantisme en abordant des questions liées à son organisation ou à son refus de s'organiser, ce qui souligne en creux l'importance que peut prendre cette dimension dans la perspective de la contestation.
En France, comme aux États-Unis, les classes populaires boudent les urnes et semblent exclues du jeu politique. Pour y remédier, les militants misent sur la méthode imaginée par l'intellectuel américain Saul Alinsky, qui promet de rompre avec la résignation grâce à l'organisation communautaire, par Clément Petitjean. En cette soirée de novembre 2017, une centaine de personnes sont réunies dans une salle de l'Est parisien à l'invitation du pôle auto-organisation de la France insoumise. L'atelier du jour est consacré à la méthode Alinsky, du nom du théoricien de l'organisation communautaire, Community Organizing. Cette forme de militantisme de quartier est apparue aux États-Unis il y a près de 80 ans, mais demeure largement méconnue en France. Les deux intervenants, William Martinet et Leila Shaibi, louent une méthode d'auto-organisation citoyenne qui part des préoccupations immédiates et concrètes des habitants afin de leur redonner du pouvoir. J'ai été bluffé par la capacité du community organizing à aller chercher les gens, explique Madame Shaibi. La méthode Alinsky, ça marche. En France, l'intérêt pour Saul Alinsky, 1909-1972, n'a cessé de croître ces dernières années. Ses principaux écrits ont été traduits ou retraduits. Des colloques, des ouvrages universitaires ou des numéros de revues lui ont été consacrés. Et des collectifs qui s'en réclament ont vu le jour, telles l'Alliance citoyenne de Grenoble et celle d'Aubervilliers. Les associations Zonzon 93 de Villepinte ou Stop le contrôle aux faciès qui combat les pratiques discriminatoires de la police. La République En Marche commence également à s'y intéresser. En novembre dernier, elle a invité l'universitaire américain Lex Paulson à vanter les vertus de l'organisation communautaire auprès de ses militants. Mais la France insoumise a été le premier mouvement politique à revendiquer explicitement l'héritage Alinsky. En août 2017, plusieurs ateliers de ces amphis d'été ont exploré cette technique supposée permettre la rencontre des quartiers populaires. Le pôle auto-organisation, terme choisi par la France insoumise pour traduire « community organizing », a alors été créé. En plus de mettre sur pied les ateliers publics, il a été récemment édité une note présentant le principe pour développer l'auto-organisation populaire, frapper aux portes, tisser les colères, cibler les puissants et agir nous-mêmes. Théorisée et mise en pratique par Alinsky, l'organisation communautaire se présente comme une méthode très codifiée pour mobiliser les classes populaires. Un petit groupe de permanents salariés, les community organizers, organisateurs communautaires, doit d'abord s'immerger dans un territoire, Puis, grâce au porte-à-porte ou à des entretiens individuels, ces professionnels recueillent des doléances des habitants afin de faire jaillir leurs revendications concrètes. Une fois ce travail accompli, ils élaborent une stratégie d'intervention, planifient des réunions préparatoires, imaginent des actions collectives et inventives, des techniques originales de lobby, tout en relançant les membres bénévoles pour s'assurer de leur participation. Les campagnes doivent être gagnables. Inutile de vouloir mettre à bas le racisme ou le capitalisme et découler des préoccupations immédiates des habitants, les expulsions locatives, les fermetures de lycées, l'accès à la santé, etc. Cette méthode permettrait, selon Alinsky, de faire émerger des organisations d'organisations qui se rassemblent autour d'un programme élaboré en commun. Cet ensemble de principes, de buts et de pratiques sur lesquels le peuple s'est mis d'accord ne doit pas être trop détaillé. Après tout, le véritable programme démocratique, c'est un peuple qui s'intéresse à la démocratie, écrit Alinsky. Dans cette perspective, la participation citoyenne n'apparaît pas comme un moyen pour la mise en œuvre de mesures politiques, de redistribution par exemple, mais comme sa propre fin. La méthode Alinsky naît formellement en juillet 1939 à Chicago avec la création du conseil de quartier de Back of the Yards Neighborhood Council, BYNC, le territoire ouvrier du sud de la ville où vivent une majorité d'immigrés. Ancien travailleur social, Saul Alinsky s'associe à un dirigeant communiste du syndicat des travailleurs des abattoirs et à un évêque catholique progressiste pour le mettre en place. Il regroupe les représentants de diverses organisations du quartier, églises, associations d'entraide, groupes de riverains, syndicats, autour d'un double objectif, lutter contre les problèmes sociaux des habitants divisés en fonction de leurs organisations nationales, en les fédérant autour d'intérêts communs et faire ainsi émerger un contre-pouvoir populaire et de porte-parole légitime capable de faire pression sur les élus pour défendre ses intérêts. La presse locale, puis nationale, encense le BYNC, s'émerveillant devant un miracle démocratique qui pourrait sauver le mode de vie américain menacé à la fois par les fascismes européens et par le communisme soviétique. Fort de ce succès inattendu et afin de pérenniser ce type d'intervention qu'il a expérimenté à Chicago, Alinsky crée en 1940 la Fondation des espaces industriels, Industrial Areas Foundation. Il s'appuie pour cela sur certaines fractions des classes dominantes, la philanthropie et les milieux d'affaires réformateurs, les professions libérales et les puissantes églises catholiques. Proche du philosophe catholique français Jacques Maritain, 1882-1973, Alinsky bénéficie des généreuses subventions de l'archidiocèse de Chicago. Ses relations privilégiées avec l'Église lui permettent d'échapper à la répression marxiste après la Seconde Guerre mondiale et de poursuivre son entreprise de participation citoyenne. Il peut ainsi voyager à travers le pays, multiplier les conférences, créer plusieurs structures comparables au BYNC et former des dizaines de personnes à l'organisation communautaire. Mais sa proximité avec la hiérarchie catholique dépasse les seuls liens institutionnels. Sa méthode, s'immerger dans un quartier, recueillir des doléances et mettre en œuvre une action collective à visée réformatrice, évoque la pédagogie du « voir, juger, agir » au fondement de la doctrine sociale de l'Église. De plus, la notion de communauté au cœur de ses interventions n'est pas sans rappeler les paroisses qui structurent historiquement la vie locale aux États-Unis. L'extension communautaire connaît une forte expansion dans les années 1970. Les militants étudiants noirs ou pacifistes, les hippies et les féministes des 60s n'ont pas fait advenir leur révolution sociale, politique et culturelle tant attendue. Les mobilisations nationales pour les grandes causes laissent place à ce que l'historien Michael Stewart Foley appelle les « front porch politics », politiques de proximité, des luttes concernant des problèmes purement locaux volontairement dissocié de questions stratégiques plus larges. Les expulsions de locataires à New York, l'accaparement des terres par l'industrie agroalimentaire dans le Midwest, les déchets toxiques en Californie. De nouveaux groupes voient le jour, dans lesquels on retrouve d'anciens militants qui ont troqué leur fougue révolutionnaire contre une vision plus réformiste et moins radicale du changement social. Souvent formés en sociologue, en histoire ou en sciences politiques à l'université, ces militants érigent l'organisation en experts de la mobilisation des pauvres, tout en s'écartant parfois des préceptes d'Alinsky. Mais ce métier manque encore de reconnaissance sociale. Au même moment, le tournant néolibéral amorcé par James Carter en 1977, puis durci par Ronald Reagan, 4 ans plus tard, confère une place croissante à la société civile et aux associations. Au nom de l'autonomie et de l'indépendance des communautés, un thème cher aux milieux libéraux comme au mouvement de libération noire, le pouvoir public se désengage de certains services destinés aux pauvres et les délègue à des organisations communautaires locales qui fournissent divers services sociaux. Loin de s'opposer au démantèlement de l'État social américain, déjà bien maigre, la méthode Alinsky s'y adapte parfaitement. Ce n'est donc pas un hasard si les organisateurs acquièrent leur légitimité institutionnelle à partir des années 1980, en même temps que leur nombre se multiplie. L'élection de Barack Obama en novembre 2008 achèvera d'imposer cette stratégie d'intervention comme une pratique politique de référence. Lui-même ancien professionnel de la mobilisation à Chicago dans les années 1980, Obama utilise ces techniques bien rodées pendant sa campagne, alors que, 50 ans plus tôt, se présente comme organisateur communautaire, revenant à dire qu'on était au tourisme d'Alpha des Centaures, cette figure est désormais reconnue nationalement. La période néolibérale relève à la fois les forces et les failles de ce modèle. Au cours des 30 dernières années, l'organisation communautaire s'est affirmée comme l'un des rares canaux de représentation populaire dans le champ politique américain, dans un contexte où les syndicats sont moribonds et où le Parti démocrate et le Parti républicain s'apparentent toujours davantage à de simples machines électorales. On lui doit, au niveau local, un certain nombre de victoires récentes. À Chicago, des groupes qui s'en réclament, tout en se montrant critiques de l'héritage alinskien, ont obtenu la réouverture par l'université après plus de 25 ans d'interruption d'un centre de soins pour blessures graves, ou encore empêché de la fermeture du lycée Walter H. Diet, le dernier lycée public du quartier noir historique des Bronzevilles. Par ailleurs, plusieurs figures de la nouvelle génération militante ont fait leurs premières armes en tant qu'organisateurs communautaires. C'est le cas de Patrice Cullors, l'une des trois fondatrices du mouvement Black Lives Matter, la vie des Noirs compte, ou de Carlos Ramirez Rosa, jeune conseiller municipal à Chicago et membre du Parti socialiste démocratique d'Amérique, proche de Bernie Sanders. Toutefois, face au glissement à droite de l'échiquier politique américain, l'organisation communautaire a témoigné d'un opportunisme politico-stratégique en définitive assez inoffensif. Alinsky a toujours explicitement refusé toute idéologie vantant les mérites d'une « real politique pragmatique ». Peu importe qui gouverne, tant qu'il est possible de négocier et d'obtenir des violences, aussi maigres soient-elles. Dans ses écrits, le théoricien se montre obsédé par la question du pouvoir qu'il n'envisage jamais en termes de prise de l'appareil d'État, mais de constitution de contre-pouvoir populaire. La tâche politique principale de l'organisation se limite ainsi à mobiliser le peuple pour réformer la démocratie américaine. Le feu, l'énergie, la vie de la démocratie résident dans la pression populaire, affirme-t-il. La démocratie elle-même est un gouvernement répondant constamment aux pressions continues de son peuple. Le peuple d'Alinsky n'a toutefois d'existence qu'au travers de ses représentants. Selon le théoricien, l'organisateur doit s'appuyer sur les logiques de notabilité locale afin d'identifier les leaders naturels d'un quartier, car eux seuls seraient capables de faire bouger les foules. La seule manière d'atteindre le peuple est de passer par ses représentants ou ses leaders, écrit-il. Connaître l'identité de ses leaders naturels, c'est comme connaître le numéro de téléphone du peuple. Parler avec ses leaders naturels, c'est comme parler avec le peuple. L'auto-organisation est donc bien encadrée. Thank you.
Jésus.